Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Au lendemain de la publication à Kinshasa des résultats de la présidentielle, des habitants de la ville de Beni au nord qui vous demandent à Félix Tshisekedi d'étenir ses promesses. Il réclame le rétablissement de la paix dans l'est du pays et l'amélioration de leurs conditions de vie. À Kisangani, le prix du litre d'essence est passé de 5 000 à 6 000 francs congolais chez les revendeurs. C'est suite à l'approvisionnement des stations Engen par SEP Congo grâce à un bateau pétrolier dépêché par le gouvernement central. Notre invité, c'est Patient Ligodi. Ce correspondant de RFI et enseignant des sciences de l'information et de la communication affirme que le travail des journalistes a été mis en mal lors des élections en RDC par la propagande politique imposée par ceux qui avaient beaucoup de moyens. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Mimi Kindou. Au lendemain de la publication à Kinshasa des résultats de l'élection présidentielle, certains habitants de la ville de Beni au Nord Kivu demandent à Félix Tshisekedi Tshilombo de tenir ses promesses faites lors de la campagne électorale. Ils réclament notamment le rétablissement de la paix dans l'est de la RDC, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils se sont confiés à Guylaine Kassassia.
Nous l'avons voté, nous attendons de lui le rétablissement de la paix. Et c'est ce qui nous a poussé de le voter, seulement ça.
Comme le bénitier, ce que nous attendons, c'est ce qu'il nous a promis avant. Il nous a dit que le massacre, des incursions, il va tout terminer.
Nous, c'est d'abord la paix, après, promouvoir les imbéciles dans le pays, parce que vraiment, nous sommes des intellectuels, on n'a pas de boulot.
Nous attendons du président la restauration de la paix, et puis qu'il équilibre aussi les salaires des fonctionnaires de l'État. Qu'il faut qu'ils mettent tout le monde au même niveau. Dans le temps, après la colonisation, les salaires étaient bien équilibrés. Qu'ils reviennent à ce système-là et puis ils verront que vraiment notre pays ira de l'avant.
Aux nouvelles autorités, nous leur demandons d'être vraiment sûrs du travail qu'ils doivent mener de manière que nous, la population de Beni, nous soyons dans la paix normale.
Comme dans le régime passé, comme dans ce régime, il faut cette fois-ci qu'on travaille sur l'impunité, surtout le détournement. Donc il faudrait que le président puisse réaménager son entourage.
En Ituri, pendant ces temps, l'insécurité a réduit sensiblement les revenus des femmes commerçantes dans la ville de Bounia. Beaucoup d'entre elles, qui avaient auparavant une importante quantité de marchandises, n'en ont plus. Elles mettent le président élu, Félix Tshisekedi, devant ses responsabilités. Reportage à Bounia, d'Ezekiel Mouzalia.
Dans la ville de Bounia, elles sont nombreuses des femmes, dont la plupart des déplacés de guerre, qui circulent à longueur des journées avec leurs marchandises sur la tête ou à la main. De loin, il est difficile d'apercevoir leurs produits. On est souvent surpris quand on s'approche d'elles. Le constat est que le bassin est vide et ne contient qu'une petite et insignifiante quantité de marchandises. C'est le cas de cette femme rencontrée dans la rue ces tout premiers jours de l'an 2024 avec 5 avocats qu'elle vend depuis le matin.
À chaque fois, il y a 10 ans. J'ai 10 ans en train de vendre des avocats. Mais aujourd'hui, la situation ne les permet plus. Dépasser le centre-ville devient tout un problème. On ne sait pas comment fêter ici à Bounia.
Dans la Bounia.
Face à la cherté de la vie, de nombreux habitants affirment se contenter d'un maigre repas le matin pour avoir la force de s'émouvoir, ce qui leur permet de garder leurs économies.
Nous, les taximen, lorsque nous quittons les parkings, nous n'avons pas le temps pour aller manger à la maison. Ces mamans qui vendent des bilibo ici nous aident beaucoup. Cela nous aide à économiser notre argent.
Ils demandent au président Tshisekedi de faire du social de la population la priorité pour leur permettre de prendre soin de leur famille. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis le Tanganyika attend beaucoup du président réélu. Déclaration faite hier après-midi à Radio Okapi Kalemie par Bavon Kalinde. Cet analyste politique affirme que durant le premier mandat du président Félix Tshisekedi Tshilombo, cette province a été oubliée. Il le dit à Paul Mounanga.
Les Tanganyikais, selon ce que nous observons, ils attendent beaucoup du pouvoir Tshisekedi. Il vous souviendra que 5 ans durant, les Tanganyikais ont constaté que le gouvernement Tshisekedi n'a pratiquement rien fait. Même ses représentants dans la province n'ont pas fait grand-chose. Alors que les natifs du Tanganyika attendaient d'eux que l'on puisse arranger les routes, que l'on puisse construire beaucoup d'infrastructures. Mais malheureusement, aucun acte n'a été posé dans ce sens. Ce qui fait regretter, vous allez remarquer que même les résultats de vote, le Tanganyika en général n'a pas voté pour M. Tshisekedi. Mais aujourd'hui, le Tanganyika est obligé de se plier face à la majorité qui s'est dégagée. Mais néanmoins, ils attendent à ce que ce gouvernement fasse quelque chose pour la province. Aujourd'hui, tous les territoires sont isolés du chef-lieu de Kalemie. Si on parle de Kalemie, c'est peut-être à cause d'une seule avenue, l'avenue Lumumba, qui a été construite par l'ancien régime, ce qui crée un peu la beauté. Mais pour le reste, et les Tanganyikais se demandent, avec toutes les taxes qui ont été multipliées par 10, où vont tous ces fonds?
Politique encore, Georges-Éric Makangu, sénateur de la dernière législature en RDC et candidat député national de la circonscription électorale de Bouta, vient de saisir la CENI à Kinshasa sur les irrégularités constatées le 20 décembre dernier à Boutaville, et territoire dans la province du Bas-Ouélé. Il parle notamment de ce qu'il qualifie de tricherie à ciel ouvert, de tribalisme et de bourrage des urnes orchestrées, selon lui, par certains membres de sa famille politique, notamment l'Union sacrée de la nation. Il plaide pour l'arbitrage de la CENI afin de maintenir un climat de paix dans cette région. Il s'est confié à Grâce Hamzati.
Tous les bureaux ont fermé aux heures habituelles, mais 2-3 heures après, ils ont rouvert et c'était barricadé par la police, par l'armée, tous les services de sécurité qui étaient en train de surveiller le travail qui s'est fait. On a chassé tous les témoins. C'est au vu et su de tout le monde. Il y a aussi un policier candidat, c'est la première fois que nous découvrons ce genre de choses, qui, lui, son frère biologique, était coordonnateur et superviseur de plusieurs centres de vote. Nous sommes dans l'Union sacrée, dans la majorité. On devrait avoir un climat d'accalmie, d'apaisement. Nous avons gagné un pari. Le pari, c'est de faire réélire le chef de l'État. Nous avons battu campagne. Là, le grand problème, c'est législatif. On ne veut pas se retrouver avec des faux députés, des nominations, des gens qui ont volé la victoire du peuple. La CENI a tous les éléments. Elle ne doit pas être complaisante. Elle doit être juste. Elle doit être neutre. Elle doit œuvrer à ce qu'il y ait un climat de paix dans toute la province en proclamant les résultats réels. Les cas de tricherie doivent être annulés, invalidés, les candidatures de ces gens de personnes-là.
Notez que les allégations de Georges-Éric Makangu sont corroborées par le bâtonnier Patrick Akatio Lepo du barreau de Bouta. Celui-ci parle quant à lui des cas de meurtre et d'insécurité autour des élections. Autre réaction, le président namibien félicite chaleureusement Félix Tshisekedi Tshilombo pour sa victoire à la présidentielle. Dr Egg Gimbong réaffirme son engagement à poursuivre leur collaboration franche en vue de promouvoir la prospérité des deux nations. Aux côtés du président Félix Tshisekedi Tshilombo, nous persévérerons dans nos efforts pour renforcer l'unité africaine à travers la SADC, y compris la zone de libre-échange continentale africaine, contribuant ainsi à l'émergence d'une Afrique prospère. D'autres réactions dans ce condensé de Sintabashi Zinabizana.
Le président des Comores était parmi les premiers dirigeants à réagir. Azali Assoumani a félicité le président Tshisekedi, son successeur à la tête de l'Union africaine. Vient ensuite les dirigeants du bloc de la communauté de l'Afrique de l'Est, l'EAC. C'est notamment le voisin burundais, le président Evariste Ndayishimiye, qui a également adressé ses félicitations à son homologue Félix Antoine Tshisekedi. Il a formulé le vœu d'une résolution pacifique en cas de contentieux électoral à travers les canaux légaux. Même son de cloche du côté de la présidente de la Tanzanie, Suluhu Samia se réjouit de continuer à travailler avec le président Tshisekedi. Du côté de la SADC, la réélection de Félix Tshisekedi est saluée par un poids lourd de la communauté des États de l'Afrique australe, en l'occurrence l'Afrique du Sud. Le président sud-africain, tout en saluant la victoire de Félix Tshisekedi, félicite le peuple de la RDC qui, selon Cyril Ramaphosa, a fait un pas solide vers la consolidation de la démocratie et a exprimé son désir d'un avenir pacifique, sûr et prospère. Le numéro 1, sud-africain, invite les participants qui contestent les résultats des élections de suivre les voies légales prévues par la constitution de la RDC. L'une des réactions en dehors du continent nous vient de la France. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, principal parti d'opposition et de l'extrême droite sur l'échiquier politique en France, a exprimé ses félicitations au président Tshisekedi et a envoyé des vœux de paix au peuple congolais.
Économie à présent. Dans la province de la Tshopo, un litre d'essence est vendu entre 5 000 et 6 000 francs congolais. C'est suite à l'approvisionnement des stations Engen par SEP Congo grâce à un bateau pétrolier dépêché par le gouvernement central. Faisons le point de la situation à Kisangani avec vous, Jacques Mkongole.
À Kisangani, les détenteurs des engins motorisés poussent un ouf de soulagement. Ils peuvent actuellement se procurer du carburant dans les stations-service sans beaucoup de difficultés. Grâce à l'approvisionnement des stations Engen par SEP Congo au lendemain de l'arrivée d'un bateau pétrolier dépêché par le gouvernement central. La population s'en réjouit à l'instar de ces hommes.
On avait élevé à 20 000 francs, voire même 25 000 francs. Mais actuellement ici, le prix vraiment se rabaisse.
C'était tellement difficile à tel point qu'on ne pouvait même pas entrer. Même l'accès était difficile partout, parce que même les stations service n'étaient pas ouvertes aussi. Mais pour le moment, comme presque toutes les stations sont ouvertes, la population est vraiment servie et il n'y a plus d'engouement dans toutes les stations de la ville.
Si chez Engen, le prix est resté le même, soit 4 000 francs congolais le litre d'essence, chez les pétroliers de l'Est, en dépit de l'entrée des camions citernes transportant du carburant, le prix est revu à la hausse. 5 000 francs congolais le litre au lieu de 4 000 francs. Dans leur milieu, certains justifient cette situation par la dégradation de la route nationale numéro 4. Le souhait de la population est de voir un litre de carburant baisser jusqu'à 3 500, voire 2 500 francs. Jacques Mkongole, Kisangani, Radio Okapi.
Et au Kasaï oriental, la régie des eaux a réceptionné vendredi dernier des équipements à Pimpaneuf pour l'adduction d'eau potable financée par la Banque africaine de développement, pilotée par le projet d'infrastructure socio-économique et exécutée par la société chinoise Panchine. Le directeur provincial de la régie des eaux affirme à Radio Okapi qu'aussitôt installés, ces équipements vont améliorer de mieux en mieux la desserte en eau potable dans la ville de Mbujimayi. On écoute Didier Mboudi Lelo dans cet extrait proposé par Esther Ndalafina.
La réception provisoire globale, c'est un acte conventionnel. Le travail a été fait des réseaux bénéficiaires, mais le plus grand bénéficiaire, c'est la population. Dans les temps, quand on venait à Baroara-Panga, nous avions des bâtiments administratifs anciens, vieux, et maintenant on a réhabilité. On avait un vieux réservoir là-bas qui datait de 1964. On a tout cassé et à la place, il y a deux grands châteaux d'eau. 2420 mètres cubes chacun. C'est déjà un plus parce que cette capacité de stockage qui passe de 920 mètres cubes à 2840 mètres cubes. Vous allez là-bas, vous allez trouver une station de pompage renouvelée. Il y avait sept vieux groupes motopompes là-bas et qui ne fonctionnaient plus vraiment. Et maintenant, on a neuf nouveaux groupes motopompes. Pour l'instant, prions Dieu qu'il y ait suffisamment d'énergie pour que ces ouvrages donnent de l'eau.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, 6 morts et 2 rescapés. C'est le bilan d'un glissement de terrain survenu cette nuit dans les installations de l'Amidema au Congo central. Le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodia Mbete, qui a assisté à la levée des corps des infortunés, affirme que ce drame a occasionné d'importants dégâts matériels. La MONUSCO a lancé les travaux de réhabilitation des routes secondaires de la ville de Bunia en Ituri. Objectif affiché, faciliter la circulation des habitants, mais aussi des casques bleus et de la police onusienne lors des patrouilles. Beaucoup d'habitants de la ville saluent les efforts consentis par la mission onusienne et souhaitent en même temps que le gouvernement asphalte définitivement ces routes qui desservent plusieurs quartiers. À Bunia, la correspondance d'Ezekiel Mousalia.
Au total, 11 km des routes urbaines sont en cours d'entretien depuis une semaine par une équipe des ingénieurs du contingent népalais de la MONUSCO. Il s'agit par exemple du tronçon qui va de l'aéroport de Bunia au parking RVA, Air Zaïre, lycée Tchemtchem jusqu'au camp de Romo qui accueille certains contingents de la mission onusienne. Ces voies étaient parsemées de nids de poules qui sont fermées grâce à ces travaux d'entretien qui consistent également au reprofilage de certaines artères qui étaient devenues presque impraticables. Le calvaire est terminé, souligne des conducteurs de taxi-moto, selon lesquels circuler sur ces voies était devenu très difficile. Témoignage.
Il y avait déjà un problème qui s'est posé, les gens tombaient, plein d'accidents, mais cette fois-ci, ils ont rechargé parce que ces derniers temps, on a vu même des sables qu'ils ont amenés. C'est les mêmes routes qu'ils ont faites. Quand on remonte jusqu'à tes gouvernements, c'est vraiment une très bonne qualité.
C'était vraiment une route totalement à lambeau. Quand vous portez quelqu'un, il y a risque. Les pieds peuvent entrer dans les rayons ou bien la moto risque de trouver des pannes.
Certains habitants demandent au gouvernement provincial d'accélérer différents projets d'asphaltage pour mettre la population à l'abri des poussières qui occasionnent des maladies. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce aujourd'hui que 380 personnes ont été interpellées en France cette nuit, en baisse de 10% par rapport à l'année dernière. À Paris, a-t-il ajouté, plus d'un million de personnes étaient sous les Champs-Élysées sans aucun incident majeur. Il a relevé qu'il y avait eu 40% en moins des policiers et des gendarmes blessés. Quelques 745 véhicules ont été incendiés. Là aussi en baisse de 10% par rapport à l'année dernière. La capacité de l'Ukraine à résister à la Russie au début de l'invasion à grande échelle en février 2022 est devenue aujourd'hui l'une des préoccupations majeures et des raisons pour lesquelles les partenaires internationaux du pays ont commencé à fournir davantage d'armes. En cette nouvelle année 2024, la situation risque de changer car deux programmes d'aide sont suspendu actuellement par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne.
L'invité.
Notre invité, c'est Patient Ligodi, ce correspondant de Radio France Internationale et enseignant des sciences de l'information et de la communication affirme à Radio Capi que le travail des journalistes a été mis en mal lors des élections par la campagne électorale politique imposée par ceux qui ont beaucoup de moyens. Il s'entretient avec Grâce Amzati Massanzi.
Patient Ligodi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suffisamment couvert les processus électoraux jusqu'à l'étape où nous sommes, l'étape de la proclamation des résultats provisoires. Est-ce que ce travail a été facile pour vous en tant que journaliste?
Non, ça n'a pas été facile. C'était un grand défi, un très très grand défi. Eu égard, déjà, ce que nous avons proposé, ce que nous devons proposer. Nous voulions proposer un débat, véritablement un débat. Nous voulions imposer un débat intéressant aux candidats, président de la République par exemple. Que ça soit dans le secteur de l'économie, que ce soit dans le secteur de la sécurité, que ce soit dans la société en général, avec de grandes thématiques. Mais on n'a pas pu. On n'a pas pu parce qu'on a un système électoral à un seul tour. Conséquence, les candidats qui ont beaucoup de moyens imposent, on va dire, une sorte de thématique qui fait en sorte que, comme ils ont beaucoup de moyens de communication, ils ont beaucoup de moyens également de transport, ils imposent leur thématique dans l'espace public congolais. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est que tous les grands candidats, entre guillemets, possèdent des chaînes de télévision ou dominent ou ont une, on va dire, une mainmise sur des moyens de communication de masse. En 2018, le président sortant n'avait pas, on va dire, une grande mainmise sur les réseaux sociaux, par exemple. On avait les mouvements citoyens qui étaient au top dans la proposition des débats, ainsi de suite, et qui mettaient vraiment beaucoup de pression. Mais pour 2023, on remarque particulièrement que les candidats avaient plus de possibilités de pouvoir engager les influenceurs sociaux, de pouvoir investir Twitter, Facebook, YouTube et consorts, de payer même de la publicité en ligne pour en fait être le plus visible. Pour moi, si on me pose la question, je dirais que le journalisme a été mis à l'échec par la propagande politique imposée par ceux qui avaient plus de moyens. Ceux qui ont tenté parmi les journalistes d'imposer, on va dire, un journalisme indépendant, se sont butés à un problème d'argent et des moyens et ne pouvaient pas donc faire face à ces dictats des moyens, des gros moyens de communication mis en place par les différents candidats. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que les journalistes n'ont pas eu la possibilité de pouvoir se déplacer comme ils l'auraient souhaité. Il n'y a pas d'avion. Même les candidats s'en sont plaints. À l'époque, on pouvait être dans un avion de la MONUSCO et espérer bouger. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué et donc on se retrouve dans une situation où soit vous êtes embarqué dans un avion qui appartient ou bien qui est loué par un candidat président de la République, soit vous vous contentez de ce qu'il vous donne. À la limite, vous faites au travail également vos correspondants.
Malgré toutes ces difficultés, quel a été l'impact du travail des journalistes dans ces processus électoraux, contrairement au processus précédent, et comment, selon vous, les journalistes se sont en sortis de ces difficultés-là?
Alors, les difficultés ont été importantes, comme je venais de le mentionner. Comment les journalistes, beaucoup se sont fait acheter, on l'a vu, beaucoup ont accompagné de manière partisane des hommes politiques, et c'est bien dommage, mais il y a quand même une frange. Je vois par exemple ce qui s'est passé au centre Bossolo, où vous avez quelques petits bastions du journalisme qu'on a pu remarquer, avec notamment Radio Capi, Actu30, Actualité.cd, 7 sur 7 ou encore Top Congo, mais c'est rien par rapport, on va dire, aux médias importants qu'on a dans ce pays, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une situation où très peu des journalistes ont fait du journalisme. Et beaucoup ont fait de la propagande, beaucoup ont abandonné, constatant que c'est difficile justement de pouvoir imposer, on va dire, un journalisme indépendant dans un contexte de pauvreté, dans un contexte également de précarité en termes de sécurité, et également dans un contexte d'absence d'ambition éditoriale pour beaucoup de médias.
Marcel Ligoudi, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le travail des journalistes a impacté positivement au résultat qui place Tshisekedi vainqueur et impacté à l'échec des autres candidats?
C'est difficile à dire, mais dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, dans la mesure où la thématique majeure pour le président de la République avait été notamment un discours très identitaire, et un discours contre le Rwanda, un discours contre les candidats entre guillemets de l'étranger et consorts. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans ces discours. À tort ou à raison, je ne donne pas de jugement, mais c'est comme ça que ça s'est passé. On s'est retrouvé avec les gros médias qui ont relayé à longueur de journée également ces discours. Donc on va dire qu'il y a eu un impact plutôt négatif aussi des médias qui sont entre guillemets sous influence de différents candidats.
Passin Ligodi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Capi ce soir, Patient Ligodi, correspondant de Radio France Internationale et enseignant des sciences de l'information et de la communication. Il a été interviewé à Kinshasa par Grâce Hamzati Massanzi. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. Merci à Alain Ronk-Mouchinch qui m'a accompagné.